On se retrouve en direct des studios Ubisoft Bordeaux dans le cadre de la sortie du jeu Assassin's Creed Mirage. Tout d'abord, première question, est-ce que vous pourriez vous présenter notamment votre rôle, votre mission au sein d'Ubisoft ?
Bonjour, je suis Stéphane Boudon et je suis directeur créatif sur Assassin's Creed Mirage.
Est-ce que vous pouvez un peu décrire vos missions en tant que directeur créatif pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas trop le milieu du jeu vidéo ?
Alors, l'objectif du directeur créatif dans un jeu vidéo, c'est vraiment d'apporter la vision globale du projet. C'est de aussi supporter les autres directeurs. Donc, on a des directeurs par pôle de métier. Donc, vous avez vu Jean-Luc Sala, notre art director, mais on a aussi Sarah Beaulieu, que vous avez peut-être déjà vu sur Internet et qui est notre narrative director. Et comme ça, pour chaque pôle, donc on a animation, son, on a des directeurs qui sont là. Et donc moi, je suis là aussi pour faire le lien entre tous ces directeurs et pour les aider à poser leur vision.
Assassin's Creed Mirage, c'est un très gros jeu, un jeu triple A comme on dit. Quels sont les challenges, les contraintes principales quand on travaille sur ce type de jeu ?
Moi, c'est principalement la communication. Comme tu l'as dit, Assassin's Creed Mirage, c'est un énorme jeu. On a travaillé avec beaucoup de studios aussi, partenaires. Et donc, il faut, pour pouvoir partager cette vision, être capable de la matérialiser, donc soit sous la forme de documents, de présentations, etc., et de la communiquer au plus grand nombre. Assassin's Creed Mirage, c'est à peu près 600 personnes au pic de la production. Donc, ça demande un effort de coordination assez important. Donc, je dirais que c'est plutôt ça, le challenge dans ce genre de gros jeu. Après, évidemment, il y a des challenges plus techniques sur les moteurs, sur les différentes consoles. Je dirais que nous, parce qu'on a voulu un jeu plus restreint, plus petit, aussi parce qu'on le voulait, parce qu'on voulait proposer cette expérience aux joueurs avec Assassin's Creed Mirage, mais aussi parce que c'était lié à nos capacités de production.
Assassin's Creed, c'est une franchise qui existe depuis quelques années maintenant. Les joueurs ont beaucoup d'attentes quand un tel jeu sort de nouveau. Comment on gère les attentes des joueurs ? Est-ce que vous prenez en compte justement entre les différents opus des sagas ces attentes-là ?
Alors oui, évidemment, on est toujours attentif par rapport aux joueurs et aux critiques des joueurs. Ce qui est sûr, c'est qu'Assassin's Creed, c'est une franchise monde. Il y a eu énormément de jeux, des styles très différents. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et donc là, avec Assassin's Creed Mirage, on a vraiment décidé de revenir à l'essence de ce qu'étaient des Assassin's Creed et pour essayer de respecter le plus cette catégorie de joueurs qui ont aimé ces jeux-là et qui peuvent être vocaux à propos de ces jeux-là. On s'est basé sur la recréation des émotions que nous avaient fait passer ces Assassin's Creed. Donc on est vraiment pas sur du détail ni de faire des copier-coller de choses qui ont été faites. On essaye vraiment de se concentrer sur une émotion forte que ces jeux ont fait passer. Et on est plutôt tous d'accord, à la fois développeurs et joueurs, de ces émotions qu'on a connues, pour essayer de les reproduire et du coup avoir des ingrédients, des mécaniques qui viennent nourrir ces émotions.
Et justement, pour rebondir à ta question, comment on fait pour gérer cette responsabilité de recréer tout un imaginaire, comme vous le mettiez beaucoup en avant, ce fait de retour aux sources, avec notamment le premier jeu qui a marqué bon nombre de joueurs? Comment on fait pour recréer tout ça après 15 ans sur plein d'attentes de joueurs différents? Comment on fait?
Déjà, il faut qu'on se mette d'accord entre nous. Donc, j'ai parlé des nombreux directeurs qui sont sur le projet. Donc, ça a été un travail tous ensemble de poser cette vision, de se remémorer les choses qu'on a vécues. Je sais que, par exemple, j'avais entendu Jean-Luc qui disait que lui, il a préféré ne pas jouer à Assassin's Creed 1. Il a vraiment voulu se concentrer sur ses souvenirs et ne pas y rejouer. Moi, j'y ai rejoué. J'ai quasiment rejoué à toute la série quand on a commencé Assassin's Creed Mirage. Et forcément, il y a aussi cette question de modernisation. On ne voulait pas non plus rester dans une formule passéiste qui serait, qui correspondrait plus aux standards actuels du marché. Assassin's Creed 1, c'était vraiment incroyable à l'époque. Quand on y rejoue maintenant, c'est un peu compliqué et il y a des trucs à améliorer. Donc en fait, c'était vraiment une balance entre qu'est-ce qu'on peut moderniser, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut pousser encore plus loin. Presque, en fait, la démarche a été presque de faire un Assassin's Creed 2, comme si on avait la legacy du 1 et qu'on faisait la suite. Plutôt que voilà, d'essayer de juste reprendre ce qui avait été fait avant.
Par rapport à Assassin's Creed, vous avez dit du coup que c'était une licence monde qui touche énormément de monde. Quelles sont les options d'accessibilité qui ont été mises en place pour Assassin's Creed ? On sait que c'est un triple A et l'accessibilité est une question qui touche de plus en plus l'industrie du jeu vidéo. Qu'est-ce qui a été mis en place pour cet Assassin's Creed Mirage ?
Alors, j'ai pas toute la liste des options d'accessibilité, mais je pense qu'on pourra vous la fournir s'il y a besoin à côté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est parmi ceux qui essayent le plus de pousser pour l'accessibilité au niveau des joueurs. Mais sans pour autant vouloir enlever le challenge. Et donc, c'est toujours très compliqué puisqu'il y a différents types d'accessibilité, donc différents niveaux. Par exemple, Assassin's Creed Mirage, c'est un jeu de stealth. Et justement, pour moi, je trouve que les jeux de stealth, c'est un super moyen d'accessibilité parce qu'en fait, on va pouvoir vraiment aborder le jeu à son rythme. En faisant attention, le stealth, c'est vraiment des moments de stratégie, de planning. Et puis, de toute façon, si ça ne va pas, ce n'est pas grave, on est assez permissif sur la fuite. Et donc, si on rentre dans cette boucle de stealth, on va avoir la possibilité d'avoir un jeu très accessible. En effet, par contre, si on va dans le combat, là, ça va être beaucoup moins accessible. On a voulu le combat difficile. On a bien sûr des options d'accessibilité comme la difficulté, mais on va toujours essayer de dire aux joueurs, en fait, le moyen de jouer au jeu, c'est le stealth. Après, évidemment, on a énormément d'options d'accessibilité qui sont sur le menu en général, qui peuvent aller du text-to-speech. On a également la possibilité de remapper les boutons. Voilà, les couleurs, le daltonisme, etc. Après, je pense qu'on a une liste complète. Je vais en oublier.
À titre de référence, moi, je n'ai pas non plus, mais juste, on est parti sur la base des options d'accessibilité de Valhalla et on en a rajouté quelques-unes, mais à la marge.
Ouais.
Tu parlais d'accessibilité, Raphaël, ça rejoint un peu ta question. Le monde du jeu vidéo, c'est un milieu qui a de plus en plus de succès, il y a de plus en plus de diversité, notamment parmi les joueurs et les joueuses. Mais c'est un milieu aussi qui paraît pas forcément accessible, qui a l'air un peu secret, un peu caché. Vous y travaillez. Est-ce que c'est un milieu qui, au final, est peut-être accessible une fois qu'on en a les codes? Est-ce que vous avez des conseils pour des étudiants, notamment des jeunes, qui voudraient peut-être s'orienter et travailler dans ce milieu-là plus tard?
Alors, je peux parler de mon parcours. Donc moi, j'ai fait une école de jeux vidéo. C'était une école, c'est l'ISA à Paris. Et c'était, moi, quand j'ai commencé, donc c'était il y a 15 ans, 16 ans, et quand j'ai commencé, donc c'était vraiment la première année où cette école, c'était une école d'art et elle a fait un cursus jeux vidéo. Le problème de ces écoles-là, c'est qu'elles sont privées et qu'elles sont souvent très chères. Donc, mon conseil, c'est déjà de déterminer la volonté de bosser dans le jeu vidéo très tôt. Et je dirais même avant d'avoir le choix, après le bac, de savoir où s'orienter. Donc, le plus tôt on s'y met, le plus tôt on peut tester des choses, on peut utiliser des logiciels. Je veux dire, maintenant, avec Internet, on peut vraiment faire énormément de choses. On a des logiciels gratuits comme Unity, Unreal. Il y a énormément de tutos. En fait, en fonction de la voie dans laquelle vous dessinez dans le jeu vidéo, et après, ça, c'est un autre choix, c'est est-ce que ça va être graphique, programmation, narration. Je pense qu'il faut vraiment, c'est toujours un métier très autodidacte. Bien sûr, la formation va vous aider, mais à partir du moment où vous commencez tôt et vous avez un book et vous pouvez montrer des choses aux entreprises, vous allez être capable quand même de vous vendre un peu dans le milieu relativement tôt. Après, il y a des écoles publiques comme l'Engbin. Ouais. Qui sont des super tremplins. Après, il y a peu de place et la sélection est difficile. Mais justement, en travaillant le plus tôt possible, avant de se confronter à des tests, à des entrées, des examens, c'est là où vous mettrez toutes les chances de votre côté. Et après, c'est plutôt... moi, je sais qu'on a pas mal de gens, des fois, qui viennent nous voir, qui n'ont pas forcément d'expérience, qui viennent d'autres voies, et qui nous envoie des démos, des choses comme ça. Donc, faut jamais abandonner, en fait. Il faut essayer de toquer à la porte.
Pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport à l'héritage Assassin's Creed, de cet Assassin's Creed Mirage justement, qu'est-ce qui a propulsé en fait les idées des systèmes? On remarque notamment ce fameux système de notoriété qui pour moi me semble me rappeler celui d'Assassin's Creed 2. Y a-t-il d'autres systèmes comme ça qui sont repris des anciens? Est-ce qu'il y a une volonté de les améliorer? Est-ce qu'il y a une volonté de faire un best-of de tous ces systèmes, de faire un Assassin's Creed qui pourrait répondre à la fois aux nostalgiques, mais aussi à ceux qui auraient découvert la licence avec Assassin's Creed Origins ou Valhalla, par exemple.
Alors, pour parler du système de notoriété, notre envie avec Mirage, c'était de répondre à une fantaisie particulière. Et des jeux comme Valhalla, par exemple, vont répondre à la fantaisie du viking et donc vont mettre des systèmes de raids où on va gérer son groupe de personnes, etc. Nous, en revenant à la fantaisie assassin, on a vraiment refait le travail. On ne voulait surtout pas copier. Et donc, on a vraiment refait ce travail de... comment on remplit cette fantaisie assassin. Et la ville immersive qu'on a voulu pousser nous a fait poser ces questions, probablement exactement les mêmes questions que se sont posées les premiers créateurs des premiers Assassin's Creed. Et cette ville, on la voulait vraiment vivante avec des NPC qui réagissent. Et c'était des idées à la base, mais c'était... Donc on savait que Bassim allait être un ancien voleur. Et donc tout de suite, on s'est dit, si je prends quelque chose quelque part sur une table, il faut que ça réagisse. Et donc, c'est vraiment parti de là. On a commencé à builder un système qui permette à la foule de réagir. Et très rapidement, on s'est dit, bah oui, mais cette foule, il faut qu'elle appelle les gardes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est là où on a commencé à positionner des gardes plus régulièrement dans la ville. Donc, la ville de Bagdad est vraiment remplie de gardes. Donc, dès qu'on va faire une action... il y a forcément 2-3 gardes qui vont arriver et qui risquent de passer. Et au fur et à mesure de nos itérations, on voulait que le joueur reste dans cette loupe de discrétion. Donc pour nous, ça faisait du sens que cette notoriété commence à rester en mémoire dans la ville et qu'on ait des moyens de la baisser. Pareil, quand on a voulu baisser la notoriété... tout de suite, on s'est dit, bah oui, les posters, ça a été fait dans la C2, c'est une super idée. Mais ça a aussi répondu à une autre problématique de la ville immersive, c'est qu'on voulait des groupes de gens qui se regroupent à des endroits, donc à des étals. Et quand il y a un poster, les gens vont regarder le poster, ça va créer des mouvements de foule et ça va nous permettre de rendre cette ville encore plus immersive. Donc à chaque fois, on essayait de répondre à des questionnements. Dans notre but de faire passer ce pilier du jeu. Et à chaque fois, on construisait. Et dès qu'on pouvait cocher un élément nostalgique et qu'on pouvait le reprendre et que ça serve nos propos, on y allait à fond, forcément.
Dernière question.
Depuis quelques années, on voit une standardisation de l'open world avec même des fois une certaine surenchère. On fait de plus en plus grand. Là, on voit que votre volonté, c'est de faire plus petit, mais plus dense, avec beaucoup plus de choses. On revient à cet espace ville, comme il y avait dans Assassin's Creed. Le dernier, c'était en 2015, c'était Syndicate. Voilà.
C'était très grand. Londres, c'était très différent.
Et du coup, revenir à cette espèce de schéma, est-ce que c'est une manière de tirer votre épingle du jeu dans cette industrie actuellement ?
Ce qui est sûr, c'est que ça venait d'une volonté. Ça venait d'une volonté d'avoir un jeu, déjà qu'on soit capable, nous, de produire, mais aussi d'avoir quelque chose de plus intime et qui corresponde à la narration qu'on voulait faire avec le personnage principal de Bassim. Pour autant, je pense que les formules grands RPG ont leur avantage. Elles racontent différentes fantaisies. Qui correspondent à du viking, du spartiate, ou même l'Égypte ancienne, etc. Donc je pense qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'intention. Ce qu'on voulait faire, c'est construire un monde qui soit en accord avec la fantasy et l'histoire qu'on voulait raconter. Mais je pense que ce n'est pas la fin des gros RPG non plus.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.